Nous avons un sauveur merveilleux, n'est-il pas vrai? Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, on est rempli d'angoisse, de soucis, de détresse, de dépression. C'est pas cela? Non, c'est une autre version. Non, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Alléluia. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur est là. Et il te dit, ne crains rien. Je suis à tes côtés. Je te fortifie, je connais tes besoins, je connais ton problème. Je te soutiens, je te fortifie pour que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Alors sachant qu'il est là, le Tout-Puissant. Celui qui a dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors quand on tourne les regards vers lui, forcément, on est rayonnant de joie. Merci Seigneur. Les problèmes sont là, mais toi, tu es au-dessus des problèmes et tu me donnes la force pour les surmonter, pour aller de l'avant. Alléluia. Eh bien, je vous invite, c'est Pentecôte, j'avais oublié, hein. Parce qu'en fait, l'enfant de Dieu, vous savez, il fête tous les jours Noël, Pâques, Pentecôte, c'est réjouissant, hein. C'est pas seulement un jour de l'année. Mais j'aimerais quand même, bon, peut-être diverger un petit peu sur la Pentecôte en parlant de David. Alors, la dernière fois, nous avions vu qu'il y avait guerre, les Philistins ont attaqué Israël, et c'est là, durant cette grande guerre, que Saül est mort, Jonathan et deux autres fils également. David, qui avait été invité par le roi qu'il avait hébergé, n'est-ce pas, eh bien, a été refoulé par les princes philistins en disant « Non, je ne veux pas d'Hébreux chez nous, ils risquent de se retourner ». Et ils étaient retournés donc à Tsiklag, on connaît l'histoire. J'aimerais qu'on lise dans 2 Samuel chapitre 2, les 4 premiers versets. Il n'y a plus de roi en Israël. Et David avait été oint pour être roi en Israël. Que va-t-il faire? 2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 4. Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte !» David dit « Mais où monterai-je » Et l'Éternel répondit « À Hébron !» David y monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Ils étaient quand même nombreux, n'oublions pas qu'il y avait 600 hommes avec leur épouse et leurs enfants. Ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabez en Galate qui avaient enterré Saül. Nous continuons notre lecture au chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5 et nous lirons les 5 premiers versets. 2 Samuel chapitre 5, les 5 premiers versets. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair, autrefois déjà lorsque Saül était notre roi. C'était toi qui conduisais et qui ramenais l'Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Nous avions donc vu dimanche dernier que si David a pu pleurer, David a pu être en deuil après la mort du roi Saül. Le roi Saül qui était en fait son ennemi numéro un. Et ça, c'est parce qu'il avait un cœur net. David avait un cœur net et pur à l'égard de Saül. Il n'avait aucune rancune dans son cœur, aucune haine et pas un esprit de vengeance. C'est quand même extraordinaire, hein. En fait, David pardonnait au roi Saül tout le mal qu'il lui avait fait durant de nombreuses années, alors qu'il était fugitif. Nous le voyons d'ailleurs beaucoup plus tard, lorsqu'il est devenu roi à Hébron et qu'il avait reçu officiellement l'autorité, du moins donc sur la tribu de Juda, il n'a jamais cherché à se venger sur la famille de Saül. Peut-être certains l'auraient fait, hein, pour liquider cette famille. Au contraire, lorsque le fils de Saül, Ishbosheth, qui veut dire « homme de honte » ou « homme de Baal », est devenu roi en Israël, et ensuite il était tué par deux de ses propres chefs, et que ces deux hommes qui avaient tué donc Ishbosheth, qui avait en fait remplacé Saül, ont apporté la tête d'Ishbosheth à David, David les a exécutés en disant « Comment laisserai-je en vie des méchants qui ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche ?» Il aurait pu dire « Ben merci, vous avez bien fait, vous avez ouvert le chemin pour que je sois roi maintenant d'Israël, absolument pas. » Puis, lorsque David a été roi sur tout Israël, il a cherché à savoir s'il y avait encore quelqu'un de la maison de Saül en vie, afin, dit-il, que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Non pas pour se venger. Et alors, on lui a présenté donc Méphibosheth. Méphibosheth qui signifie « détruisons la honte » ou faisant allusion donc aux idoles. Il était fils de Jonathan et petit-fils de Saül. David lui a restitué toutes les terres de Saül. Il l'a fait loger à Jérusalem et l'a invité encore à manger tous les jours à sa table. Ça, il faut le faire. Hein. Là, David a réellement manifesté la grâce et c'est ce que Dieu a fait à notre égard en Jésus-Christ. Alléluia. Cela, je dirais que c'est plus qu'un simple pardon des lèvres. Un pardon des lèvres où l'on garde toujours le souvenir du mal qu'on nous a fait. Ça, je n'oublierai jamais. On l'entend souvent, hein. Eh bien, souvent, pour essayer de ne plus revenir sur le passé, on s'éloigne de tout ce qui pourrait même nous rappeler les sales coups que nous avions reçus. Je pardonne. Oui, je pardonne, disons-nous. Oui, mais je ne désire plus rencontrer cette personne et surtout ne pas lui parler. En fait, je ne veux plus avoir de contact avec cette personne. Alors, est-ce vraiment le pardon cela ? La Bible nous montre que lorsque Dieu pardonne, l'affaire est effacée, terminée, Dieu oublie et ne revient plus là-dessus. Alléluia. D'ailleurs, Dieu nous dit dans Ésaïe 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Gloire à Dieu. Et lorsque Dieu pardonne, ce n'est pas pour s'éloigner ensuite de nous et nous abandonner. Au contraire, c'est pour s'approcher de nous, pour nous attirer à lui. On connaît également ce verset dans le psaume 103, versets 12 et 3. Il est écrit « L'Éternel pardonne toutes tes iniquités, quelles qu'elles soient. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » En fait, c'est si loin qu'il est impossible encore d'aller les rechercher pour les retrouver. Et dans le livre du proverbe du prophète Michée, il est dit « Que Dieu est semblable à toi » ou « Quel Dieu est semblable à toi ?» qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Et il est dit « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Merci Seigneur. En d'autres termes, cela veut dire que c'est terminé, on ne revient plus sur la faute qui était confessée au Seigneur et dont on a reçu donc un plein pardon. On doit dire, vous savez, malheureusement, eh bien aujourd'hui, eh bien avec, vous savez, nos sous-marins et nos scaphandres, n'est-ce pas, eh bien on veut toujours essayer de plonger pour les récupérer. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Car quand Dieu pardonne, il oublie, il efface la transgression. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire aussi que la culpabilité que nous pourrions avoir est terminée. Merci Seigneur. Il est écrit, l'Éternel pardonne toutes tes iniquités. Et c'est de cette manière que nous sommes appelés nous aussi à pardonner de tout notre cœur. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, vous pardonnant réciproquement. Vous savez, on n'est pas parfait, hein. Et puis alors, vous savez, des fois un regard, des fois, je ne sais pas moi, une attitude peut, je ne sais pas, ça peut choquer quelqu'un. On a oublié de, voilà, de lui dire bonjour, ou je ne sais pas, on est passé à côté peut-être sans le voir. Et puis ça y est. Et alors, la Bible dit, vous pardonnant réciproquement. Puis il y en a qui imaginent aussi. Hein. Il y en a qui imaginent beaucoup de choses. Moi, je me souviens, il y en a qui sont venus vers moi en disant, mais tu me veux du mal, toi. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, ils imaginent quelque chose. Il y en a qui sont susceptibles. Bon, c'est vrai qu'on doit réaliser qu'on est tous différents les uns des autres. Mais la Bible déclare, même si je crois, même si j'imagine, alors vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Et c'est un choix, c'est un engagement de notre volonté que de vouloir pardonner comme Dieu de tout notre cœur. Et même en manifestant de la compassion et de l'amour envers celui, celle ou ceux voilà, qui nous auraient fait du tort. Cela, c'est vivre de la grâce et c'est manifester la grâce divine. N'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Se priver de la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement refuser le pardon et le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est cela certainement, mais c'est autre chose aussi. C'est également, je dirais, refuser de manifester la grâce dans nos relations par la miséricorde et le pardon. Et ça, c'est nous qui devons manifester cela. Et si nous ne le faisons pas, c'est qu'on refuse la grâce qui nous a été donnée pour que nous puissions aussi l'employer. Gloire à Dieu. En pardonnant de tout notre cœur, cela nous libérera d'un très grand poids, mais cela aidera aussi l'autre à connaître la grâce divine et la vraie délivrance de Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Je m'étais promené hier vers le lac des Taillères, et puis il y a toujours du monde. Hein. Alors j'ai toujours des petites brochures avec moi. Alors bon, c'était trouver l'espoir. Vous connaissez cette brochure, hein? On en a distribué des milliers ici. Alors j'en ai gardé aussi. Alors c'est assez intéressant de parler avec les gens. Mais il y a une dame qui dit non merci. Non merci. J'ai dit, alors elle me dit, vous savez, j'étais trop déçue. Je lui dis, c'est vrai, l'homme nous déçoit, la religion nous déçoit, les églises nous déçoivent aussi. Mais le Seigneur, lui, il ne nous déçoit jamais. Et nous sommes appelés, il est vrai aussi, à pouvoir oublier, pardonner. Et le pardon nous libère, nous libère. Mais elle a refusé la brochure, j'ai dit que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher sur les traces du Seigneur Jésus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Alors malheureusement, parmi le peuple de Dieu ou dans certains foyers aussi, il y en a qui jouent au ping-pong. Vous savez ce que c'est le ping-pong? Alors on lance la balle et puis l'autre nous le renvoie. Mais nous ne devons pas jouer au ping-pong, vous savez, quand il y a des querelles et des disputes. Injurier, alors l'autre, il renvoie la balle. Non, frères et sœurs, cela anime et ça devient un feu dévorant qui détruit. Qui vous détruit? Qui détruit votre foyer, votre entourage aussi? Jésus qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait pas de menace. Ah, tu continues encore comme ça, mais sache que le jugement de Dieu t'atteindra. Ah bien non, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Notre Seigneur Jésus a été rejeté par les hommes. Il a été méprisé, il a été humilié, maltraité, fouetté, puis crucifié. Et là, sur la croix, pardon, en agonie, alors qu'il était chargé de nos péchés, les péchés en fait du monde entier, nous dit la Bible, afin de faire l'expiation de toutes nos fautes, il a pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si nous croyons vraiment que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous devenus enfants de Dieu, alors sachez que nous sommes aussi tous appelés à pardonner de tout notre cœur. À pardonner de telle manière que nous puissions même regarder dans les yeux celui, celle ou ceux qui nous ont fait du tort, et cela sans arrière-pensée. Alors voilà la leçon que nous enseigne donc David quant à son comportement vis-à-vis de Saül, son ennemi numéro un, ainsi que vis-à-vis de la maison de Saül. David lui pardonnait de tout son cœur, et d'ailleurs, il a réclamé sa femme Michal, qui était la fille de Saül, et qui lui avait été enlevée. Mais maintenant, il n'y a plus de roi en Israël, puisque Saül a été tué. Alors, que devait faire David ? Devait-il attendre qu'on vienne le chercher, ou devait-il aller directement en Israël prendre le trône, puisqu'il avait quand même été, n'est-ce pas, oint pour être roi en Israël ? Et il avait été oint par Samuel, afin de remplacer Saül. Ça, il le savait très très bien. Il n'y avait plus de Saül. Donc, qu'allait-il faire ? Eh bien non, il ne prend pas de décision. Et ce n'était pas à lui de précipiter les choses. Il avait aussi appris que d'agir sans consulter l'Éternel, cela pouvait le conduire à faire de très très mauvais choix. Comme c'était le cas d'ailleurs, en exemple, sa décision d'être parti se réfugier chez les Philistins. C'était une très mauvaise décision. Aussi, nous voyons que David a demandé conseil auprès de Dieu, afin de savoir ce qu'il devait faire, en disant « Monterai-je dans une ville de Juda ?» Et l'Éternel lui a répondu et lui a dit « Oui, monte !» Et David a demandé encore au Seigneur « Mais où monterai-je » Et l'Éternel lui a répondu « Va à Hébron !» Donc il a quitté donc, le territoire des Philistins, il a quitté Tsiklag, et il est parti avec tous ces gens-là à Hébron. Et Hébron, c'était une ville donc de Juda. Israël n'était pas encore prêt pour accueillir David comme roi. Et il lui faudra attendre encore 7 ans et demi. Une vraie école de patience pour David, alors qu'il savait à quoi le Seigneur le destinait. Oui, il y a un temps pour toutes choses, ainsi que pour la réalisation des plans de Dieu à notre égard. Il est peut-être, vous savez, beaucoup plus difficile d'attendre lorsque nous savons à l'avance ce que le Seigneur ou à quoi le Seigneur nous appelle. Cela avait été le cas, n'est-ce pas, pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui, à l'âge de 12 ans, savait d'où il venait et ce qu'il était venu faire ici-bas. C'est d'ailleurs ce qu'il avait, n'est-ce pas, dit à ses parents adoptifs qui le cherchaient à Jérusalem. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Seulement, ce n'était pas encore le temps de Dieu pour qu'il commence son ministère, car il est écrit que Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Un enfant obéissant à 12 ans. Gloire à Dieu. Un exemple pour nos enfants aussi, alléluia, d'être comme Jésus. Il a dû attendre encore 18 ans avant de pouvoir commencer son ministère. Mais pensez-vous que Jésus n'était pas prêt avant l'âge de 30 ans ? Bien sûr que oui, mais il a dû attendre le temps du Père. Il était soumis à son Père céleste en toutes choses. Si nous sommes les enfants de notre Père céleste, sachons que nous sommes appelés à suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas à nous d'essayer de précipiter les événements, car autrement, il y aura très sûrement des dégâts et des échecs. Aussi, apprenons à marcher dans le temps de Dieu, en suivant la nuée comme le peuple d'Israël dans le désert. Lorsque la nuée s'arrêtait, il dépliait bagages, voilà, il s'installait. Et lorsque la nuée s'élevait, alors bon, hop, il s'en allait. C'était facile d'un côté. Nous avons l'action du Saint-Esprit qui est là aussi, la parole de Dieu pour nous conduire, pour nous diriger en toutes choses. Alléluia. Sachons attendre donc le temps de Dieu. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu et dans le temps de Dieu, nous voyons le Seigneur lui-même ouvrir les portes. Il aplanit le sentier et il incline les cœurs. C'est extraordinaire. C'est ce que Dieu lui-même déclare dans Ésaïe 52, verset 12. « Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira lui-même devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » C'est ainsi que David donc, est parti à Hébron selon la parole de l'Éternel. Et lorsqu'il s'est installé avec tous ses gens et leurs familles, il est dit que les hommes de Juda sont venus. Il ne les a pas appelés. Les hommes de Juda sont venus et là, ils ont oint David pour roi sur la maison de Juda. Et cela sans que David ait eu besoin de faire quoi que ce soit, de la propagande, de la publicité, aucun discours, absolument pas, comme font les gens aujourd'hui pour être élus. Non, David est venu à Hébron, il a attendu. Entre-temps, dans le nord d'Israël, Ish-Bosheth, qui était un des fils cadets de Saül, a été établi roi sur toute la maison, sur toute la nation, par Abner qui était donc le chef de l'armée donc, de Saül. Ce qui fait que Juda faisait en quelque sorte une sécession, car il y avait maintenant deux royaumes en Israël. Et cela a provoqué naturellement eh bien, des conflits. Et il est mentionné que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Et ce n'est qu'après la mort d'Abner, le chef de l'armée d'Israël, et après la mort du roi, donc Ish-Bosheth, qui en fait n'avait régné que 2 ans. 2 ans, donc, selon le chapitre 2, verset 10 de 2 Samuel. Que finalement, les anciens d'Israël sont venus auprès de David à Hébron, qu'ils ont fait alliance devant l'Éternel et qu'ils ont oint David pour roi sur tout Israël. Encore une fois, David n'avait rien fait pour provoquer cela. Il avait simplement attendu le temps de Dieu et cela a été le moment lorsque tous les anciens d'Israël ont été prêts à l'établir comme roi. Pour David, cette école de préparation à la royauté en Israël a été longue. Elle était pénible. Car si l'on peut estimer qu'il avait peut-être environ, n'est-ce pas, 17 ans lorsqu'il a terrassé Goliath, et que l'onction, n'est-ce pas, qu'il avait reçue de Samuel avait eu lieu à une date encore antérieure. Donc quand il a terrassé Goliath, il avait déjà été oint par Samuel. Et que c'est à 37 ans, n'est-ce pas, qu'il a été oint pour être roi sur tout Israël, sans trop se tromper, il a dû attendre au moins 20 ans. 20 ans d'attente. 20 années de patience, de persévérance, 20 années de mise à l'épreuve, de tentation, de discipline. Et n'oublions pas que l'école du Seigneur, pour nous, n'est jamais, jamais terminée. Alléluia. Comme pour David, d'ailleurs, il a dû encore apprendre bien des choses alors qu'il était roi en Israël. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc nous sommes toujours en course, hein? Alléluia. Donc toujours à l'école aussi. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Christ. Telle doit être notre vie chrétienne, aller de l'avant. Aussi, ne nous décourageons pas, mais persévérons avec foi et courage. Et c'est ainsi que David a été en fait 3 fois oint. Ça c'est extraordinaire, hein? 3 fois il a été oint. Une première fois par le prophète Samuel, alors qu'il était encore berger du troupeau de son père Isaïe. Une seconde fois par les hommes de Juda à Hébron à l'âge de 30 ans et une troisième fois par les anciens de tout Israël à l'âge de 37 ans. Oui, apprenons à être patients tout en restant confiants et fidèles au Seigneur. Je pense maintenant au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus qui est né à Bethléem et qui est venu ici-bas en tant que roi des Juifs, roi d'Israël. Et pourtant, ce sont des mages d'Orient, des étrangers, qui l'ont fait connaître à tout Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Mais parmi son peuple, qui l'a reconnu? Qui l'a reçu, si ce n'est une infime minorité? En cela, d'ailleurs, le prophète l'avait bien annoncé en disant « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et le peuple juif, au lieu de se réjouir de cette bonne nouvelle annoncée par les mages, sans doute ils se sont dit, ce ne sont pas des païens qui vont nous avertir, mais ce sont les érudits, les scribes, des pharisiens qui connaissent la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ce sont eux qui vont nous l'annoncer, mais pas des païens. Il est dit, suite à cette annonce des mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître, non pas qui naîtra, mais qui vient de naître, il est écrit que, avec le roi Hérode, tout Jérusalem fut troublé. C'est incroyable. Ils ont été troublés. Mais pourquoi donc? Puisque le roi Jésus est celui qui avait été annoncé par les prophètes des siècles à l'avance, les Juifs, ils attendaient le Messie. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, ils prient, ils attendent le Messie. Mais ils attendaient déjà ce temps-là. Les prophètes avaient prédit qu'il devait naître à Bethléem. Lorsque Hérode a posé la question au scribe, selon les écrits, selon les prophètes, où doit naître le roi, le Messie? Et tout de suite, ils ont dit à Bethléem. Ils le savaient. Mais qui s'est dérangé pour y aller? Personne. Il devait naître à Bethléem d'une jeune fille vierge et qu'il viendrait de la postérité de David. C'est ce qui est arrivé pour le roi Jésus, qui est né à Bethléem de la Vierge Marie et qui a eu des parents adoptifs de la postérité de David, puisqu'il était conçu par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Esaïe dira encore, on l'appellera admirable, alléluia, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, lui Jésus le roi. Jésus est né roi, il a vécu en roi humble, et dans son sermon sur la montagne, il a placé les lois fondamentales de son royaume. Durant 3 ans, il a proclamé le royaume de Dieu en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Dans son enseignement sur la prière, il a fait cette mention, n'est-ce pas ?« Dites, Père, que ton règne vienne !» Le royaume, que ton règne vienne. Et à la question des pharisiens qui lui ont demandé « Quand viendrait finalement le royaume de Dieu ?» Jésus leur a répondu « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Jésus est le roi de ce royaume. Et lorsque Jésus est mort, il est mort roi. C'était d'ailleurs l'inscription qui avait été, n'est-ce pas, placée au-dessus de la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oui, Jésus est le roi du royaume de Dieu. Mais comment y entrons-nous dans ce royaume? Jésus l'a bien expliqué au théologien Nicodème. Vous vous souvenez dans cette histoire de Jean chapitre 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela, c'est par l'expérience de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle s'expérimente en croyant, en recevant le Seigneur Jésus dans notre vie par la foi. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, lui, le roi, Jésus, non pas une religion, non pas une église, mais qui l'ont reçu, lui, Jésus, et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance est un miracle que le Saint-Esprit opère en nous le jour où nous nous repentons de nos péchés et nous recevons le roi Jésus dans notre vie comme notre sauveur qui nous pardonne en tant que Seigneur aussi afin qu'il puisse régner en nous. Ensuite, nous scellons cet acte, cette décision de foi en nous faisant baptiser d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en confessant ainsi notre union avec Jésus-Christ, le roi des rois. Voilà la signification du baptême d'eau par immersion selon la parole de Dieu. Alléluia. Un petit enfant ne peut pas faire cette confession-là. Donc c'est uniquement un baptême d'adulte ou de personne consciente, n'est-ce pas, qui se repent de ses péchés, qui accepte Jésus comme son sauveur. Dans les fêtes chrétiennes, nous avons la fête des rameaux, qui commémore l'entrée du Seigneur Jésus, là, n'est-ce pas, le roi des rois à Jérusalem, monté sur un ânon. C'était un événement qui avait été aussi, n'est-ce pas, prophétisé des siècles avant son accomplissement par le prophète Zacharie, qui a dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Les Juifs connaissaient ce passage, surtout les scribes et les pharisiens, peut-être même par cœur aussi. N'ont-ils pas fait le parallèle avec Jésus qui entrait à Jérusalem? Et il est dit dans le Nouveau Testament que beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Et ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Le mot Hosanna signifie sauve, sauve-nous maintenant, sauve-nous, nous t'en prions. Mais sauver de quoi? Ça, c'est la question aussi. Car même les disciples ne comprenaient pas la raison primordiale pour laquelle le Seigneur Jésus était venu. Puisqu'il est dit que les deux disciples d'Emmaüs espéraient que ce serait lui qui délivrerait Israël du joug de l'Empire romain. Mais il y a un joug bien plus pesant et qui a des conséquences éternelles, terribles. C'est le joug du péché qui écrase chaque être humain, qui le rend esclave ici-bas et ensuite qui le conduit à la mort éternelle et dans les tourments du feu de l'enfer. Voilà le joug pour lequel Jésus-Christ, le roi, est venu afin de nous délivrer. Mais pour cela, il a fallu que Jésus paye le prix en faisant l'expiation de tous nos péchés par son sacrifice à la croix. Et cela, le Seigneur Jésus l'a entièrement accompli pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Afin qu'en croyant en lui, en le recevant comme notre sauveur et notre roi, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Jésus a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre du péché, libre des conséquences du péché, libre de toute détendance mauvaise, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour cette liberté-là, alléluia. Alors vous qui avez accepté Christ, eh bien acceptez la libération également de tout lien qui pourrait encore vous tenir captif. Merci Seigneur. La liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Elle se trouve, eh bien, en se plaçant sous sa seigneurie, sous l'autorité royale. Voici ton sauveur, voici ton roi, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, ne la clamons pas seulement, n'est-ce pas, des lèvres, comme cela a été le cas pour la plupart de ceux qui étaient à Jérusalem lorsque le Seigneur Jésus est entré dans la ville, monté sur un ânon, car n'oublions pas que 5 jours plus tard, cette même foule s'est écriée « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Et je me pose la question, combien de chrétiens aujourd'hui, qui peut-être ont dit accepter Jésus, mais qui par leur attitude, leur manière de vivre, crucifient le Seigneur. Jésus est mort à cause de ton péché, de mes péchés. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, réalisons-le. C'est pourquoi ne nous laissons pas écraser par cela. Mais puissions-nous confesser la victoire de Christ. Alléluia. Alors, comment est-ce possible pour ces gens-là qui ont acclamé le Seigneur et qui, 5 jours plus tard, vont crier « Crucifie-le !» Comment soit-il possible? Bien, tout simplement parce que beaucoup l'ont suivi uniquement par intérêt personnel, soit à cause des miracles, de la multiplication des pains, des exaucements de prières, des besoins physiques, matériels, et suite peut-être aussi aux bénédictions qu'ils avaient reçues. Pour d'autres, ils l'avaient acclamé par intérêt politique. Et beaucoup parmi les disciples, c'est ce qu'ils pensaient aussi. Puisque la mère de Jacques et Jean l'avait demandé au Seigneur, « Seigneur, quand tu rentreras dans ton règne, j'aimerais que mes fils soient à ta droite et l'autre à ta gauche. » D'autres peut-être ne savaient même pas pourquoi suivaient le Seigneur. Ils avaient simplement suivi et imité peut-être la foule comme des moutons. On était simplement venu peut-être par curiosité pour voir cet homme Jésus. Et après toutes ces acclamations, n'est-il pas dit que Jésus, en voyant la ville et sa population, il pleura sur elle en disant « Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si aujourd'hui seulement le monde pouvait savoir ce que Christ a fait, ce qu'il désire accomplir dans chaque être humain, mais beaucoup laissent passer l'occasion qu'il leur est accordée. Aujourd'hui, le Seigneur ne dirait pas aussi la même chose à tous ceux qui passent à côté du salut, qui passent à côté du prince de la paix. Si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alors pourquoi continuer à vivre dans l'esclavage et dans les liens de l'iniquité? Pourquoi continuer à vivre dans l'angoisse, abattu, languissant, sans paix, sans joie, sans espérance, alors que Dieu, dans son amour, nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils, le roi des rois, pour nous sauver et faire de nous des fils et des filles de son royaume éternel? Alors, venons à lui. Recevons-le non seulement comme sauveur, comme libérateur, mais également comme notre Seigneur et notre roi. Que Christ puisse régner sur toute notre vie. Et je pense que c'est important là. Beaucoup ont accepté Jésus comme sauveur, alléluia, et m'a pardonné mes péchés. Alors bon, je tombe encore, bon ben il me pardonne. Mais que Jésus soit reçu comme Seigneur, comme Roi. On a lu ce matin ce que Jean-Baptiste a dit. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue, que je disparaisse. Il avait accompli l'œuvre, le ministère que le Seigneur lui avait donné, préparer le chemin du Seigneur. Il l'a annoncé. C'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui Jésus. Et beaucoup de ses disciples l'ont quitté pour suivre Jésus. Et ils voyaient que son temps arrivait à la fin. Ils n'allaient pas comprendre, c'est vrai, de quelle manière aussi il allait terminer, décapiter. Ça, c'est entre Dieu. Mais il l'avait annoncé. Frères et sœurs, il est important que le Seigneur aussi puisse grandir dans nos vies. Alléluia. Le brigand sur la croix, dans ses dernières minutes de vie terrestre, a reçu Jésus-Christ comme roi. Moi, je dirais quand même quelle révélation extraordinaire ce bandit-là a eue. Il avait reçu la révélation que Jésus-Christ était vraiment le roi des Juifs, donc le Messie. Mais il était sur la croix, lui, comme Jésus aussi. Il savait qu'il allait mourir, il savait que Jésus allait mourir. Mais être roi, de quelle manière? Eh bien, il réalisait également que la mort n'était pas la fin de tout. Une révélation extraordinaire. Seigneur, souviens-toi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi. Alléluia, dans mon royaume. Merci, Seigneur. Et puis, sachez aussi que ce ne sera jamais le Seigneur Jésus qui va imposer dans votre vie sa seigneurie. Non, jamais. C'est à nous de le recevoir comme notre roi et lui dire, Seigneur Jésus, viens, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne sur mon foyer, que ton règne vienne sur mon travail, que ton règne vienne dans ma volonté, dans mes désirs, dans mes pensées. Règne, Seigneur. On est des fois peut-être un peu trop esclaves aussi de ce qui nous entoure, des tentations qui sont là également, des penchants qui peut aussi y avoir. Mais Seigneur, viens régner. Tu connais toutes choses en moi. Règne sur mon attitude, ma colère, mon manque de patience. Seigneur, viens, règne. Alléluia. Et quand Jésus règne, il agit, il se manifeste. C'est plus moi, Seigneur. Maintenant, c'est ta volonté que je désire accomplir dans ma vie. David ne s'est pas imposé par la force pour qu'on l'accepte comme roi. Il est simplement arrivé à Hébron et l'a attendu. Et ce sont les hommes de Juda eux-mêmes qui sont venus oindre David pour roi sur la maison de Juda. Et quant au reste de la nation d'Israël, s'il est dit que Ish-Bosheth, le fils de Saül, a régné 2 ans. Il semble donc qu'Israël soit resté au moins 5 ans et demi sans roi, puisque David a dû attendre 7 ans et demi avant que les anciens d'Israël viennent le prendre. Mais David n'a pas forcé, il n'a rien fait, aucune propagande. Il a simplement attendu que finalement tous les anciens d'Israël viennent pour faire alliance avec lui et l'éloignent pour roi d'Israël. C'est exactement la même attitude qu'a le Seigneur Jésus à notre égard. Il ne force pas. Lorsqu'il est retourné dans la gloire, Dieu le Père l'a souverainement élevé. Jésus a été couronné de gloire et d'honneur et le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus seul est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Puissions-nous nous aussi fléchir le genou et dire, Seigneur, sois le roi de ma vie. Je te cède tout, je t'apporte absolument tout. Alléluia, tu viens régner en moi. Alors, au ciel, tous les anges l'adorent. Alléluia. Je vais dire ainsi que tous les rachetés qui nous ont précédés. Et ici-bas, tous ceux qui le servent et l'adorent sont ceux qui l'ont accepté volontairement comme sauveur et roi de leur vie. On en trouve parmi toutes les nations et parmi toutes les races, ainsi que parmi les Juifs qui l'ont reconnu comme le Messie, le roi. Mais malgré toute l'autorité et la gloire reçue, le Seigneur ne force pas et ne forcera jamais, il attend. La Bible déclare, il use de patience, voulant qu'aucun de vous ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et à la vie. Selon Seulement, la Bible avertit aussi. Elle déclare en disant, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse la grâce à tous de venir à lui dans la repentance et dans la foi, et que chacun d'entre nous, nous soyons réconciliés avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme le Sauveur et le Roi de notre vie. Que notre prière puisse être, Seigneur Jésus, viens, viens régner sur toute ma vie, sur ma famille, sur tout mon territoire. Et c'est alors qu'il abattra les forteresses, qu'il chassera l'ennemi hors de nos âmes, lorsqu'il sera établi roi sur le trône de notre cœur. Alléluia. Je termine en disant aujourd'hui, selon le calendrier chrétien, nous fêtons Pentecôte. Durant son ministère, le Seigneur Jésus s'est écrié, on le lit dans Jean chapitre 7, il s'est écrié à Jérusalem, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On voit là le parallèle entre la glorification de Jésus et l'action du Saint-Esprit. Et si nous voulons réellement que l'Esprit de Dieu puisse agir dans nos vies, se manifester, que ce soit par les dons spirituels ou autres, il importe que Jésus soit glorifié dans notre vie. D'ailleurs, le Saint-Esprit est venu dans le but de glorifier Jésus. Lorsqu'il viendra, il me glorifiera, a dit Jésus. Et tous les dons spirituels doivent être employés pour que Jésus soit glorifié et que les âmes soient conduites vers le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que Jésus est glorifié dans nos vies en tant que roi? J'aimerais qu'on s'incline dans la prière. Nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin. Nous glorifions ton nom. Il est vrai que bien souvent nous le disons, Seigneur, légèrement, que ton nom soit glorifié. Mais en fait, dans nos vies, il y a tant de choses qui ne te glorifient pas. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Mais avec l'Église tout entière, nous te disons ce matin, Seigneur Jésus, viens. Viens régner sur ma vie, sur mes pensées, sur ma volonté, sur mes sentiments, sur mes émotions, sur mes paroles, sur mes actions, sur ma famille, sur tout ce que je dis m'appartenir. Seigneur, viens régner. Sois le maître incontesté, sois le Seigneur et le Roi. Amen. Nous terminons en chantant un cantique dans les chants de victoire, le 181, qui parle de Jésus le Roi. J'entends ta douce voix. Le Seigneur nous appelle, c'est vrai, d'une voix douce aussi, à venir à lui et à lui céder notre vie tout entière.